Et Pierre Ducrot et Daniel Riolo. On vous rappelle le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma, FC Porto, Tottenham, Dortmund, Ajax, Real Madrid, OL, Barça, Liverpool, Bayern, Schalke, Nulfir, Manchester City, Atlético de Madrid, Juve. Simone Arrovera nous a rejoint. Bonsoir, ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut Simone. Simone.
Tout bien. Même si le vrai match c'est entre moi et toi là.
C'est-à-dire
Italie et Portugal.
Il y en a, ouais, le Roma-Porto.
C'est la grande affiche. C'est la plus intéressante.
C'est celle dont tout le monde se fout. Hein. Mais alors, terriblement. C'est
peut-être la plus équilibrée.
Je crois, non, parce que tous les autres se disent, on veut prendre le vainqueur exactement de ce match-là en quart.
Et alors, ce qui est drôle, enfin, moi, j'ai vu un peu les réactions, alors, et des Romains et des portistes. En fait, il n'y a aucun des deux camps qui est content, quoi.
Non, moi, j'ai vu les Romains, ils sont très contents.
Ah, Totti, c'est ce qu'ils voulaient.
Ah, tu penses que Porto a préféré tomber sur le Barça?
Non, mais Porto, ils se disent, oui. Ça, peut-être pas le Barça, mais ils se disent, bon, c'est un peu chiant quand même, quoi. Porto, ils ont été premiers de groupe, hein. Le Barça, ils pouvaient pas.
Mais en quoi tu veux que le Porto soit pas content?
Bah, tu veux
ils voulaient tomber sur plus dur.
De mieux, c'était de mieux. T'avais quoi? Ouais,
pardon,
peut-être
Schalke,
je sais pas.
Et la Roma, ils voulaient tomber sur qui?
Sur
Manchester City.
Porto.
Non, mais c'est
non, mais parce qu'ils se disent qu'au final, ils seront quasi favoris. Ou tu vois, c'est égal.
Ouais, donc c'est un problème.
Bah oui, ils aiment pas trop ce statut, tu vois, mais ils ont pas l'habitude.
Ils aiment sortir au week-end.
Raisonnement.
Ah ouais, moi je te répète juste ce qu'ils disent, Daniel. C'est pas question de raisonnement. Les mecs te disent, je te répète ce qu'ils disent. En gros, ils disent, bon, c'est pas trop comment aborder le truc.
Qui disent?
Bah, Fernando Gomez, dirigeant du FC Porto.
Très bien.
Double soulier d'or. Voilà,
très bien. Donc ils préféraient tomber en huitième contre le Real ou le Barça pour être éliminé.
Ils disent, on sait pas comment aborder le truc. Quand ils disent qui est le favori, ils te disent, j'en sais rien, moi.
C'est pire. Si tu t'es fait éliminer par Barça, c'est normal.
Une mentalité un peu bizarre.
Après, c'est pas une question de mentalité, c'est de la communication surtout.
Ah, okay. D'accord. Okay.
Fred Herbel est avec nous.
Hola chicos.
Comment il va le Fredo?
Salut Fred.
Ah bah très bien. Alors, message personnel si je peux me permettre. Oh, Simone, Gaïa, ta femme t'embrasse. Hein, on a passé un très bon moment à la maison ensemble.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là?
Bah, Madame Simone Rovera vient de quitter mon domicile madrilène.
Mais c'est quoi cette histoire?
Oh. Bah, elle passe à Madrid et vient voir Fred, quoi.
C'est... Bien sûr, vient voir tonton Fred.
Oh là, ouais,
il y a
Fred
Hermel à Paris, il y a Fred Hermel à Madrid.
On sait ce que ça veut dire, tonton Fred, tata machine.
Non, c'était la première rencontre, j'étais très sage.
Non, mais c'est vrai ça, Simone?
Mais bien sûr. Montre la photo, copain.
Pour travail, j'ai donné l'adresse de Fred, j'ai dit, va donner les cadeaux de Noël.
Tu joues avec le feu,
toi. Tu joues avec le feu,
tu connais pas Fred.
Quel séducteur, ce Fred.
Tu sais qu'il est pas vegan, hein, Fred.
Ouais.
Oh. Ah bah bon, après.
Ah bah Madame Simone non plus, hein.
Oh, c'est-à-dire.
Bah quoi, là, on a mangé plein de produits, donc j'ai un petit peu de fouette. Du fouette, c'est du saucisson catalan, voilà, des carottes, des olives.
C'est qu'il est pas bien Simone là en plateau, tu le vois pas, mais.
Non, mais tu sais.
Mais il le savait, c'est lui qui l'emmène. Mais comment mais parce que Simone m'envoyait
la fièvre en
Mais non, mais Simone, ta femme est merveilleuse et je comprends vraiment beaucoup pourquoi tu es avec elle.
Et pendant ce temps-là, Simone s'occupe de Perry.
Ouais. Ouais, et de sa petite fille. Ta patate à diamant.
C'est vrai. Ouais. Mm-hmm. Avec la nounou. J'espère que tout va bien. Ma papelle.
Ah, mi tranché. Simone Rovera, qui te concerne un petit peu aussi, mon Fredo. Tu vas comprendre.
Ah, bah oui.
Là, arrive Naples et Lazio. Ils se rendent compte que non, hein, ça fonctionne pas. J'ai démission.
Il reviendra après.
Il
démissionne.
Je démissionne. Il va dans les vestiaires. Le joueur dit, bah, écoutez, je
démissionne.
J'ai démission.
Comment on dit, Simone?
Je démissionne.
Bien fait. Alors, mon Simone, ton avis tranché concerne l'une des affiches de ces huitièmes de finale. Il y en a pas mal. Atlético Juve.
L'autre affiche.
Après, Bayern-Liverpool.
C'est la plus belle des huitièmes.
Bayern-Liverpool, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal, mais ah, oui. Atlético Juve.
Juve Atlético. Retour de Cristiano à Madrid.
Tu penses que ça va être un match un peu débridé où ça va jouer, ça va être agréable à regarder, et t'as un choc tactique.
Là, ça va être serré, ouais.
Juve Atlético qui risque d'être intéressant à suivre.
C'est qu'il y a les footballs, les vrais, regardent.
Qui le comprennent, tu veux dire?
Ouais. Atlético Juve.
Et toi, tu
vas voir des buts tranquilles, tu vas voir.
Et si tu veux voir un 0-0 disputé, tu veux.
Un 0-0, mais avec
un 0-0.
Ouais, bien sûr. Un 0-0.
Bien sûr, on s'entend.
Et toi, tu dis, Simone, ce match, c'est l'heure de Cristiano Ronaldo.
C'est la raison pour laquelle Cristiano Ronaldo est venu à la Juve aussi. C'est très simple. C'est pas pour marquer 11 buts en Serie A, c'est pas pour faire gagner les championnats plus vite. Ça, c'était un peu l'histoire d'Higuain, comme j'avais dit il y a deux ans.
Mais il a déjà gagné le championnat.
Voilà, mais quand Higuain arrive de Naples pour 90 millions, c'était le meilleur attaquant de Naples. Tu le prends, tu le mets dans ton équipe, tu gagnes plus vite le championnat et tu as la possibilité peut-être d'aller loin en Ligue des Champions. Ils sont allés loin en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas gagné. Cristiano, c'est l'homme pour les grandes affiches, pour les gros matchs. Il n'a pas été à l'heure, il n'a pas été présent, il n'a pas été très, très décisif, on peut dire, dans la première partie des saisons en Ligue des Champions. parce que quand même, oui, il a fait une passe décisive, une but face à Manchester, mais un seul but en phase des poules, c'est trop peu pour lui. Et c'est à l'arrivée, une adversaire qu'il aime bien, avec face à qui il a marqué plein de buts, 22. C'est un adversaire...
22 en 29 matchs, c'est ça?
En 31 matchs, exactement. 31
matchs.
31 matchs TCC. Ouais.
Avec donc un excellent ratio de buts par match. Et après, c'est un adversaire très compliqué face auquel il faut, au-delà des efforts de l'équipe, aussi l'individualité d'un joueur, la génialité, la force physique, la classe d'un joueur qui a gagné 5 fois le Ballon d'Or pour arriver à battre Atlético, qui va être une équipe très très compliquée à jouer. Je ne sais pas si la saison dernière, la Juve aurait pu battre Atlético ou être avantagée face à Atlético. Je trouve que cette année, avec un Cristiano en plus, c'est sûr que la Juve a cette petite avantage. Au-delà d'être une grande équipe, un grand club, et d'avoir les championnats déjà dans la semaine, d'avoir un Cristiano en plus, mais il doit les montrer dans un match comme ça.
Alors, Fred, on se tourne vers toi maintenant aussi. Okay. Moi, je regardais un peu la presse espagnole après le tirage. C'est vrai que c'est le grand retour de Ronaldo à Madrid qui est annoncé.
J'ai eu la une de des journaux.
On en parle plus que du Real Ajax, hein, c'est évident. Le retour de Cristiano à Madrid, mais le risque que prend Cristiano est énorme. Parce que si jamais il est éliminé à l'Atlético, enfin, en huitième contre l'Atlético, enfin, ce serait un truc hallucinant. D'autant plus que...
Ça va péter, je pense. Hein.
Oui, mais c'est-à-dire que il y a des journaux qui font des sondages en disant mais vous supporters du Real, vous allez être pour une fois pour l'Atlético contre Cristiano qui a quand même bien énervé tout le monde et qui est fâché avec tout le monde dans le vestiaire sauf avec Marcelo, ou vous allez plutôt soutenir la Juve parce que c'est votre ancien joueur et puis parce que vous ne supportez pas l'Atlético. Donc voilà, le débat est déjà lancé. Alors moi je pense sincèrement que la Juve à cause de Cristiano est favorite, et puis qu'il y a toujours ce doute autour de la présence ou non de Diego Costa qui dans un match contre la Juve serait tellement important. Il vient d'être opéré au Brésil d'un pied. On va voir, on ne sait pas trop quand il va être de retour en forme au sein de l'Atlético. Donc je pense que ce sera une donnée hyper importante pour cette double rencontre. Après, Cristiano Ronaldo, moi je l'ai vécu ici, je l'ai vu et je l'ai fréquenté pendant 9 ans. L'ultra motivation de Cristiano l'a souvent desservi. Et Dieu sait que c'est le match qui va le motiver.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. Il a fait une pression.
Quand il est trop,
quand il veut être trop lui, il veut tout faire tout seul. Le meilleur Ronaldo, c'est quand il est bien dans le groupe et qu'il joue avec les autres et qu'il laisse les
quand
autres
il ne
jouer avec lui.
Il joue pas, parce que déjà quand il joue, c'est largement
suffisant. Tu crois qu'il va le faire avec la Juve, ça? Je suis pas sûr.
Non, mais.
Ah ouais, c'était le retour à Madrid, mais contre l'Atlético, t'imagines.
Les premières 4-5 matchs où il devait trouver
le retour en Espagne,
vous savez, on disait pareil avec l'équipe nationale, et finalement, on l'a vu d'ailleurs pendant la Coupe du Monde, ça a été le meilleur joueur du Portugal et le plus régulier aussi.
Il a été au service du collectif.
Mais
aussi.
C'est vrai, mais là il y a une charge émotionnelle qui est différente. Il y a le côté revenir à Madrid et tout.
Et puis une revanche sur Madrid, sur le Real, mais sur sa ville, parce qu'il est tellement mal parti, il n'arrête pas de critiquer même sa vie à Madrid, et puis l'Espagne, le fisc espagnol, les complots contre lui de l'Espagne, tout ça. Donc il va être sifflé comme rarement un joueur.
Ça, il aime bien, ça il adore.
Mais il aime bien, oui, mais sauf que ça provoque un... Moi je l'ai vu parfois dans certains matchs où il avait tellement envie de tout faire. Par exemple, Messi met un triplé la veille, et ben Cristiano est pas le même. Voilà, quand il surjoue, quand il en fait trop, ça le dessert lui-même. Je pense que c'est le seul vrai risque pour que Ronaldo ne soit pas l'homme qu'on attend de lui à la Juve, c'est cette surmotivation qui le dessert, et parfois il a un peu tête à claque parce que il oublie les autres, quoi. Et ça, je l'ai vu mais des dizaines de fois avec le Real Madrid, c'est le risque. Parce que sinon, voilà. Et puis, si je me permets, je passe là. On est dans le quart d'heure, Simone. J'ai déjà passé 2 heures avec sa femme. Je peux lui bien lui faire un quart d'heure à la télé, à la radio et à la télé. Attention. De l'autre côté, il y a une équipe qui a un petit plus qui s'appelle Antoine Griezmann, qui est dans une forme éblouissante. Le Ronaldo de l'Atlético, c'est Griezmann. Alors paradoxalement, et j'en termine là-dessus.
Daniel te dira que c'est dans 2 mois. Hein.
Ce sont deux équipes. Ce sont deux équipes qui tactiquement sont parmi les meilleures en Europe. On est tous d'accord.
Oui, ça oui.
Mais cette double confrontation va se jouer sur le plus que va apporter soit Ronaldo, soit Griezmann. Et c'est le match dans le match qui, moi, m'excite à un point, mais hallucinant.
Mais alors, c'est vrai que tu le disais, Simone, c'est un peu le symbole, finalement, du projet de la Juve. Parce qu'il y a toute la dimension marketing économique qu'il y a derrière ça aussi, à travers ce match également. Tu sors en huitième de finale de Ligue des Champions, est-ce que au niveau industriel, entre guillemets, ce serait un manque à gagner important pour la Juve pour son projet?
Oui, dans le point de vue industriel, en bourse donc, mais à niveau d'image, à niveau de message que tu veux faire aux grands joueurs que la Juve continue à dire de vouloir recruter à partir de Pogba, on va voir quels vont être les
Marcelo.
Autres. Marcelo, bien sûr, il y en a plusieurs qui sont suivis par la Juve, mais au-delà de ça, sportivement, la Juve a bâti ces groupes-là, au-delà de l'équipe des 11 titulaires, a bâti tout ce que c'est autour de l'équipe, la communication, mais c'est vrai, mais les joueurs, ils ont été achetés pour gagner la Ligue des Champions. Quand tu prends Cancelo, qui était la meilleure latérale du championnat italien, tu gardes Pjanic, même s'il y avait une offre énorme des City, tu fais arriver Cristiano, c'est pour gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'à ces moments, la plus grande déception serait sportive. Après, c'est vrai, si tu penses à l'argent qu'ils ont perdu en septembre, quand il y a eu les premières infos sur les Ronaldo Gate, sur la Sex Gate, combien d'argent il a perdu en bourse, combien cette situation peut encore être négative à niveau des sponsors, à niveau du club. Mais c'est une équipe qui veut gagner avec des champions. Et
quelque part, la Juve est dans une gestion différente, une approche différente des choses. La Juve se retrouve un peu dans la situation du PSG. J'écrase tout dans le championnat et il y a plus de championnat. La Juve est beaucoup trop forte dans ce championnat, même si les matchs.
Ça paye très cher une star.
Même les matchs ne sont pas peut-être ne sont pas les mêmes, mais les résultats sont identiques et tout est construit. Même les supporters de la Juve aujourd'hui, bon, ils gagnent. Avant le derby, c'était important contre le Toro. Ce week-end, c'est gagné avec un petit but seulement facile. L'Inter la semaine dernière. Enfin, on élimine tous les adversaires qui normalement sont un peu ceux qui doivent t'emmerder ou qui font vibrer un peu le cœur des supporters. Et tout est uniquement braqué maintenant sur la Ligue des Champions. Ronaldo, comme tu dis, c'est l'achat pour ça. Tout est construit dans ce but.
On est dans une mentalité des Super League déjà. Les adversaires de la Juve aujourd'hui, c'est le Real Madrid un peu.
Exactement.
Messieurs,
exactement.
Dans quelques instants, on sera avec toi, Monfredo, pour parler également du tirage des clubs espagnols.
Mais simplement, si on peut dire un petit quand même, c'est que la Juve n'est quand même pas vernie. Elle tombe sur le pire deuxième possible.
Oui, c'est vrai.
On l'a pas dit ça aussi. Enfin, le projet, c'est-à-dire que tu peux taper un Ajax, tu peux avoir un Lyon, tu peux avoir, voilà. Et là, tu tapes l'Atlético. L'Atlético termine deuxième, donc ils n'ont qu'à s'en prendre.
Je rappelle quand même aussi le tirage au sort des clubs italiens en 16e de finale de Ligue Europa, parce qu'il y a aussi une belle affiche, Lazio Séville, qui est plutôt intéressant. Il y a Rapide Vienne, Inter Milan et Zurich Napoli. Voilà.
Tu peux dire la Lazio seulement pour dire qu'elle a perdu encore ce soir. Contre Atalanta.
Qu'est-ce qui se passe avec la Lazio? Ça marche
un super match.
Ils se sont écroulés ces dernières semaines.
5 matchs.
Qu'est-ce qui se passe?
4 points.
Ils ont été forts juste pour battre l'OM ou quoi?
Déjà, il était très faible quand ils ont battu l'OM. C'est ça les.
Simone. Ah, oui,
je t'ai vu, c'était un super match. Hein. Je t'ai vu le regarder.
Il y a eu un but à après 57 secondes et un but refusé à la 93e.
Ouais, et entre deux?
Fallait voir la fin et le début.
Mais j'ai les buts. Jusqu'à la fin, le pauvre Simone, j'adore ça.
Allez, l'after se poursuit dans quelques instants avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo et nos drôles de dames. Il y a Fred Hermel, il y a Simone Rovira et bientôt Julien Laurence et David Lortolari seront avec. Accompagné de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, Simone Rovira et de Fred Hermel sont avec nous. David Lortolari et Julien Laurence vont nous rejoindre dans quelques instants. On vous rappelle les tirages au sort des 8e de finale de Ligue des Champions, 16e de finale également de Ligue Europa. On va donner le tirage pour les clubs espagnols, Monfredo, Lyon-Barça, Atlético de Madrid et Juve, on vient d'en parler. Ajax-Real, ça c'est pour la Ligue des Champions, 16e de finale d'Europa League. Rennes-Bétis-Séville, Celtic-Valence, Lazio-Séville et puis Sporting-Portugal face à Villarreal. On va s'arrêter sur ce Lyon-Barça. On va écouter Gérard Rouillet, un conseiller de Jean-Michel Aulas, qui lui estime que ce tirage...
Extérieur.
Oui. Ça veut dire quoi ça?
Une fois que tu rentres dans les bureaux, il a
c'est son titre.
D'accord, il a un conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas pour qui le fait d'affronter le Barça...
Ça veut dire qu'il s'occupe de tout ce qui est externe au club et pas...
C'est un mec extérieur, externe.
Non, mais...
Consultant.
Dehors.
Pas dedans.
Au resto. Mais pas dans les bureaux.
Mais pas dedans. Extérieur.
Voilà.
Solution extérieure. Réaction à ce tirage au sort. extérieur.
Vous savez que vous jouez un potentiel vainqueur de Champions League, qu'il a été aussi à plusieurs reprises, dans un certain style, avec une certaine philosophie. J'ai envie de dire, on n'a rien à perdre. C'est probablement tout bonus pour l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on pense qu'on est encore un peu inférieur au FC Barcelone, mais je vous répète, sur deux matchs, tout est possible.
Alors on va vous poser cette question, est-ce que c'est tout bonus ou pas pour l'Olympique Lyonnais? C'est justement d'ailleurs l'avis tranché de Fred Herbel.
D'un système que tout le monde connaît qui s'appelle 3-3-3.
Voilà, c'était court mais efficace. Mon Fredo, toi t'es pas franchement d'accord avec Gérard Rouillet, je crois, conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas.
Bah non quoi, enfin il suffit de regarder un peu les matchs du Barça cette saison. Et je pense sincèrement que c'est la saison la pire pour affronter le Barça. Parce que je l'ai déjà dit plein de fois, ils sont obsédés, à commencer par leur meilleur joueur et leur patron, qui est Lionel Messi, par la Ligue des Champions. Donc c'est l'objectif, je ne vais pas dire que c'est l'objectif unique, mais presque. La Liga et la Coupe se sont relégués à un deuxième plan. Moi je me souviens très bien qu'après avoir perdu un mercredi soir à Leganés, cette équipe du Barça recevait le dimanche l'Athletic Club de Bilbao au Camp Nou, qui est quand même une affiche historique de la Liga. Comme c'était trois jours avant le déplacement du Barça à Wembley pour jouer en phase de poule simplement contre Tottenham, Messi était sur le banc. Donc, parce que Messi avait décidé, avec Valverde, de ne pas jouer ce match pour se réserver pour la Ligue des Champions. Ça veut tout dire. Messi, cet été, a pris le micro au trophée Joan Gamper, le trophée de match amical de rentrée, présentation de saison, en disant, cette année, objectif, c'est la Coupe. Donc, si c'est pas le même Barça, et les erreurs qu'on a pu voir en Liga, cette défaite contre le Betis à domicile, cette défaite à Leganés, ce nul contre l'Athletic Club Bilbao à domicile, ce sont pas des erreurs qu'on voit en Ligue des Champions, où le parcours jusqu'ici est magnifique, quoi. Donc, je vois pas comment Lyon pourrait se qualifier. Alors, rien n'est impossible dans le foot. On le sait, l'an dernier, la Roma a créé l'exploit en quart de finale avec ce but de Manolas au match retour, alors que le Barça avait quasiment gagné sa qualification pour l'ennemi à l'issue du match aller au Camp Nou. Mais là aussi, ça peut paraître un bon signe en disant oui, le Barça est prenable, mais ce qu'ils ont vécu la saison dernière, eh ben voilà, c'était une piqûre de rappel et voilà, ça a provoqué un petit tremblement de terre à Barcelone, hein, cette élimination contre la Roma, surtout la manière dont ça s'est passé. Donc il me semble aujourd'hui presque imbattable en Ligue des Champions face à une équipe comme Lyon. Et pourtant j'aime bien Lyon et j'aimerais bien voir Lyon faire quelque chose. Et puis quand on voit le Messi, alors ça sera dans deux mois, mais quand on voit le Messi qu'il est cette saison,
direct, c'est dans deux mois.
Mais sauf que le Messi, mais dans deux mois, il sera toujours pas en sélection argentine, parce que il est libéré par.
Il sera frais alors quoi.
Mais non, mais surtout que quand il va en Argentine, ça lui prend la tête, il est pas bien, il se fait du souci, nana. Il est heureux quand il est quant à Barcelone, pas son pays l'Argentine. Je parle de la sélection argentine.
Non mais vous avez pensé quoi des propos de Gérard Rouillet?
Je sais que toi t'as tiqué en l'écoutant.
Mais personne n'a pensé. Enfin, il était pas en train de vous dire que contre le Real c'était le tirage idéal. C'est pas ce qu'il a dit.
Le Barça.
Mais personne n'a dit ça.
Mais
on n'a pas compris ça.
Non mais Fred dit qu'il n'est pas d'accord avec les propos et que c'est le pire moment pour tirer le Barça.
Il a dit tout est possible.
Sur deux matchs, c'est tout bonus.
Le tout bonus, c'est sur le côté clinquant, enfin le côté gala, match de gala pour Lyon.
Il est dans son rôle, Gérard Rouillet. Mais simplement, il suffit d'ouvrir un peu les yeux. Et en plus, tout à l'heure dans Team Duga, il y avait on rediffusait la déclaration de Fernand Mendy ce matin à l'issue du tirage au sort. On avait l'impression d'une équipe de 3e division
en Coupe de France
qui va faire des photos avec les joueurs
c'est pas possible quoi.
Oui, je dois dire que ça c'est quelque chose qui m'agace profondément.
Ah ouais,
parce que Lyon ne peut pas se permettre d'avoir ce genre d'attitude.
Lyon
fait son retour en Ligue des Champions, ils sont absents depuis très longtemps, ils viennent avec beaucoup d'humilité
Daniel.
Je veux bien.
C'est ce que tu réclamais tout à l'heure.
Mais encore une fois, Lyon a 200 millions de budget. Je sais pas si un autre club avec de tels moyens aborderait la rencontre de cette façon. Qu'il soit donné perdant, évidemment. Qu'on mette le Barça favori, oui. Que le Barça semble meilleur cette année que les années précédentes. Et encore, je sais même pas pourquoi on dit ça, parce que l'année dernière, au moment où il joue la Roma, tout le monde voit le Barça se qualifier.
Ah, le Barça est toujours
donc,
le Barça.
Lyon doit se servir plutôt Bah, de ce qu'a réussi à faire, par exemple, la Roma l'année dernière. Ok, c'est peut-être pas la même année. Le Barça d'une année sur l'autre, des fois, il change. À une année, il semble intouchable. Et puis, ils vont au bout.
Mais c'est ce qu'a voulu dire, Gérard Rouillet, moi, je pense.
Voilà. Moi, je pense que Lyon...
Qu'il y avait quand même une chance. Il existe toujours une chance de faire quelque chose de bien, quoi.
Mais Lyon doit surtout ne pas aborder ça comme une équipe de nationale qui joue une Ligue 1 en Coupe de France. Ils doivent y aller le couteau entre les dents et se dire, parce qu'on est dans une situation ultra confort, qui est celle qu'on décrivait hier soir. C'est en gros, la saison de Lyon, elle est terminée. C'est, on fera podium en Ligue 1. On est trop fort pour rater le podium en Ligue 1. Et en Ligue des Champions. Mais c'est pas qu'on est tombé sur une équipe
qui est plus abordable,
dont on aurait pu dire elle est moins forte que dans le passé. Non, t'es tombé sur à peu près ce qu'il y avait de pire avec la Juve. Voilà. Bon, bah vas-y quoi. Joue à fond le coup.
Tiens, on va écouter.
C'est ce qu'ils vont faire. Après tout, les exploits en Coupe d'Europe. Bon, dans le football français, ils sont pas méga fréquents, mais ça existe. Ça existe.
Ils en ont fait un. Alors même si c'était pas un match à élimination directe, mais la double confrontation face
à
cette
équipe.
Non, c'est pas un match à élimination directe.
C'est
ce que je te dis. C'est pas un match à élimination directe. Cela dit, on va écouter Bruno Genesio.
Lyon l'a fait une année. Le fameux match contre le Real en 2010. Bon, ça date. Mais en match aller-retour, pour moi, c'est la seule fois où ils ont vraiment fait un gros truc.
On va écouter Bruno Genesio, sa réaction au tirage au sort à l'entraîneur de l'OL.
Ma foi, c'est certainement le tirage un des plus compliqués qu'on pouvait avoir. Il faudra faire deux exploits, un à l'aller, un au retour. Mais on est capable de le faire. On l'a fait contre City. Je pense que c'est deux équipes qui sont comparables. Donc il faudra s'appuyer sur ce qu'on a été capable de faire sur la double confrontation contre City et être capable de le refaire contre une équipe qui est certainement encore une équipe plus solide.
Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il prend ce match-là comme match référence, mais c'est vrai que tu le disais, Daniel, c'est pas le même contexte quand t'es dans un play-off.
Après, il est bien obligé. En tant qu'entraîneur, je pense que j'aurais fait pareil.
Heureusement qu'il a un peu d'ambition quand même.
On a rencontré une grosse équipe, on a réussi en étant dans tous les duels, dans le combat, à exploiter le peu qu'il y avait à exploiter, on l'a bien fait. Moi, je trouve que c'est hyper motivant pour Genesio, pour les Lyonnais.
Il y a un truc aussi. Pekir suspendu au premier match.
Ouais, ça c'est...
Au Parc OL.
Ouais, si tu veux rééditer un peu les deux exploits ou les deux sortes de performances qu'ont eu lieu contre City, Fekir a joué un rôle là-dedans.
D'accord. Bon, écoute.
Fredo, un mot sur un autre huitième également, Ajax Real Madrid. Bon, ils ont pris ça comment les madridistes?
Ils sont contents. Ouais. Bah oui, enfin
super tirage pour le Real.
Bah bien sûr, enfin quand même, on va pas faire la fine bouche du côté madrilène, hein, parce que il y avait deux tirages qui plaisaient, c'était Lyon et l'Ajax. Alors c'est vrai que c'est une jeune équipe, c'est vrai qu'elle aura rien à perdre, etc. Mais bon, t'es le Real, t'es dans une saison quand même très compliquée, tu finis premier de groupe, et t'as un bon tirage, voilà. Donc ils ont appris ça en atterrissant à Abu Dhabi où ils vont jouer après-demain la demi-finale du Mondial des clubs. En espérant sûrement retrouver River Plate samedi après-midi pour la finale. Non, c'est un Real qui est fragile, mais bon, c'est quand même un Real qui est toujours en course en Liga, qui est terminé premier de groupe en Ligue des Champions, qui est qualifié pour la Coupe du Roi, les huitièmes de finale. Voilà. Alors après, ce serait vraiment la honte de se faire taper par l'Ajax, là aussi. Mais bon, c'est plutôt un bon tirage. Après, et puis les jeunes de l'Ajax, le match aller, ils ont fait un très très grand match aller parce que le retour à Bernabéu en Ligue des Champions sont des jeunes aussi. Quand t'arrives à Bernabéu en huitièmes de champion, ouais, tu l'as vécu, Pierre. Il y a des moments, t'es aussi impressionné.
Hélas,
quoi.
Non, j'ai pas vécu le huitième de finale de Ligue des Champions à Bernabéu, mais j'imagine, j'imagine
dans
que
dans un grand match, etc.
T'as une notion supplémentaire qui est... Voilà, t'as beau avoir un peu de ballon et être une belle équipe, quand t'arrives là-bas, c'est autre chose.
Et puis ce poncif, mais qui est tellement vrai, le Real en Ligue des Champions, c'est pas la même équipe. Rappelez-vous, il y a un an, à la même époque, on était là, tous ensemble.
On en parlait tout à l'heure dans la première heure d'ailleurs.
Et on parlait du PSG, on disait, oh là là, c'est catastrophique pour le Real, qui était bien moins bien qu'aujourd'hui. Il était totalement largué en Liga. Et voilà, normalement, sincèrement, un Real sérieux doit passer en quart de finale, ça c'est évident. S'il y avait eu en face à Manchester United, même si le Manchester United n'est pas bien, la composante Mourinho, tout ça, enfin il y a tellement de trucs, je pense que ça aurait été plus dangereux pour l'Allemagne.
Tu crois même plus dangereux que l'Ajax
à cause du contexte.
Mais tu crois que ça aurait été dangereux?
Ouais.
Le Manchester, si on passe sur le Real d'aujourd'hui, le Manchester d'aujourd'hui.
Ouais, mais c'est Mourinho, mais tu sais, il y a quand même tellement de composantes autour de ce truc. On aurait, en plus, ce match aurait été pollué par l'histoire de Mourinho avec le Real. Il en aurait fait des tonnes. Voilà, tout ça aurait pas été très serein. Là, c'est un match de foot entre une jeune équipe qui a rien à perdre et un Real qui va essayer de pas être ridicule. Voilà, il y aura que du foot. Il y aura pas d'éléments extérieurs.
Fredo, 16e de finale d'Europa League. Rennes est qualifié et Rennes va affronter le Bétis.
Bah, c'est un horrible tirage pour le résultat de Rennes, mais c'est un magnifique tirage pour voir du très beau football. Voilà.
Ah oui.
Bah, pour moi, le Bétis,
c'est... Bétis, c'est pas super bien classé, mais ça déroule hein, quand même, hein, ça joue.
Ah bah, ils sont cinquième quand
même. Ils sont cinquième quand même, tu rigoles.
Ils sont remontés, à un moment, ça allait pas bien pour eux.
Ouais,
ils sont à deux points du quatrième, je crois.
Ils jouaient bien, mais ils avaient pas forcément les résultats, ils étaient un peu à la traîne, et puis petit à petit, ils sont remontés.
Bah oui, parce
ils ont été récompensés en fait de ce qu'ils faisaient.
Il y a du Lo Celso d'ailleurs.
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas changé. Daniel, ouais. Je vois que tu sais très bien les matchs du Bétis.
Ça t'a arrêté avec un jour.
En fait, ce qui se passe, c'est que le Bétis n'a pas changé son style parce que ça marchait pas.
Exactement.
L'entraîneur a dit, c'est ma manière de voir le football, c'est-à-dire un football. C'est peut-être le football le plus offensif, peut-être même encore un petit peu plus que le Barça. C'est-à-dire qu'il y a
un côté un football de possession, mais qui laisse une grande place pour le jeu direct
et vers voilà, il a exactement. Des phrases, cet entraîneur, que dans notre championnat, on n'écoute pas, on n'entend pas, quoi. C'est impossible à dire, tout ça. Quand on dit ce genre de choses, là, c'est comme quand dernière, un entraîneur qui dit gagner ne suffit pas.
En France?
Non, en France, ça n'existe pas, ces propos-là. Ah, oh, la semaine dernière, putain, un entraîneur, c'est fou, ça.
Kaiser a dit ça au Sporting, mais je pense pas que ce soit lui.
Hein? Merde, c'est fou, les trous de mémoire. Je commence à vieillir, sérieusement.
Ah, bah, on est tous là, tu sais, mon ami.
Je sais ce que je voulais dire.
J'en profite pour vous le teaser.
La phrase, je m'en souviens plus.
Julien Momon, sur son compte Twitter, a partagé une interview de Kiké Sétienne qui explique, justement, et exprime ses idées. C'est très, comment très, très intéressant.
Je n'arrive pas à dire son nom. Tu peux me le redire?
Mais de qui?
Le coach du Bétis.
Kiké Sétienne.
Il s'appelle Enrique Sétienne, donc son surnom, c'est Kiké Sétienne.
Sétienne?
Ah, c'est Enrique.
Enrique Kiké Sétienne.
C'est Enrique. Son prénom. Kiké est le diminutif de Enrique. Mais tout le monde l'appelle Kiké Sétienne, qui était à Las Palmas. Alors, c'est un entraîneur.
L'entraîneur du Shakhtar.
Pas enfoncé, quoi.
Pas
enfoncé.
Super interview avant le match contre Lyon.
Ouais.
C'est lui qui a dit ça. Gagner ne suffit pas.
Ah bah non, puis ils ont
pas enfoncé, quoi.
Kiké Sétienne, lui, considère que il a un projet de jeu et que c'est de donner du spectacle, c'est de bien jouer, c'est d'attaquer.
Bien sûr.
C'est un football.
Mais heureusement, il y a de plus en plus d'entraîneurs. Là, petit à petit, on va virer tous les pourris.
Ouais, mais et lui, voilà. Et même quand ça marchait pas, il ne changeait pas d'avis. Mais là aussi, les dirigeants intelligents qui continuent à faire. C'est pas parce qu'il y a deux matchs de suite où ils perdent, on se dit oh là là, il est menacé. Ça n'a jamais existé au Bétis, même quand ça marchait pas. Et on voit où ils sont cinquième de la Liga. Ce sont quand même les seuls à s'être imposés au Camp Nou cette saison au terme d'un match. Mais 4-2 extraordinaire avec des rebondissements. Voilà.
Avec un Lo Celso qui est excellent.
Lo Celso est super bien installé.
Il joue à son poste déjà.
Vous avez Marc Bartra qui est ce défenseur international espagnol ex du Barça, du Borussia Dortmund, qui est un très bon joueur.
Je pense qu'il est dans un meilleur environnement que quand il était à Dortmund.
Voilà, vous avez Inoui qui est pas tout le temps titulaire. Vous savez le japonais qui vient de la Veste, qui a fait une très belle Coupe du Monde.
Oui.
Inoui.
Oh, Inoui, quel joueur.
Moi j'adore. Et techniquement, il apporte beaucoup de choses. Non, mais c'est une équipe qui me plaît beaucoup. Et voilà. Donc je vois pas. Alors sincèrement, je voulais pas.
Et bout de bouse, d'accord, Fred. Merci.
Comment?
Bout de bouse.
Il veut se barrer là. J'ai lu.
Ouais, c'est un peu compliqué pour lui.
Il veut partir cet hiver.
Si Bétis marche bien, comment ça se fait que tu demandes bout de bouse? C'est forcément qu'il est plus dans le coup.
Il a eu une bonne période au Bétis.
Oui, mais quand ça marche
pas, c'est un peu plus compliqué. C'est normal.
Il y a Samandi aussi qui est là-bas.
Alors, en revanche, il reviendra en Ligue 1, on dira que c'est un super joueur qui va faire du bien au club où il va aller, évidemment.
C'est un joli joueur quand même.
Et surtout, c'est le club. Ben voilà, merci. C'est le club.
La légende.
Les lacets des shorts dehors.
Mais Joaquin, c'est un mec.
C'est quoi ça? Toi, tu dis Joaquin, tu penses au lacet du short dehors.
Mais
il est drôle.
Non, mais évidemment, j'aimais beaucoup ce joueur et tout. Mais il jouait avec les lacets du short qui pendaient devant.
D'accord.
C'est un côté un peu exaspérant. Mais
il est ça te gênait.
Je trouvais que c'était un peu chelou.
Joaquin, mais
vous avez jamais fait gaffe à ça?
Non, franchement jamais.
Non. Oui, mais
si, moi ses cheveux blonds et tout, ouais,
mais ah si, j'ai joué avec les lacets du short dehors. Ça pendouillait là et tout.
Alors Joaquin, c'est plus la première jeunesse et il joue pas tous les matchs, mais il est important dans les rencontres. Il était titulaire lors de la dernière rencontre de Ligue Europa pour assurer la première place. C'est un joueur qui compte aussi. Et vous savez, pour ces nuits magiques à Benito Villamarín, qui est je pense, avec l'Atlético, le plus beau public d'Espagne, avec cette composante andalouse excessive qui est merveilleuse. C'est 60 000 places maintenant, depuis la rénovation. Voilà, ça va être un spectacle magnifique. Et là aussi, je pense que ça va être très compliqué pour Rennes face au brio de cette équipe espagnole.
Match aller où? Voilà.
À Rennes.
Mais qu'est-ce qu'on dit de Rennes en Espagne, Fred, là? Ils en disent quoi, les Sévillans?
Le coach dit que c'est mieux d'aller là-bas que dans les pays de l'Est où il fait froid. Non, mais c'est vrai, mais c'est possible.
Est-ce qu'il a dit?
Ils connaissent pas.
Non, mais alors justement, c'est la question que j'avais. Parce que des fois, avec les Français, quand ils vont jouer dans des pays un peu, un peu lointains, c'est un peu ça aussi. Et ils considèrent vraiment ça comme un championnat secondaire, un club secondaire? J'ai envie de te dire oui.
Non, pas du tout. Parce que alors, en Espagne, on considère pas du tout la Ligue 1 comme un championnat secondaire. Mais quand vous parlez de Marseille, quand vous parlez de Lyon, quand vous parlez du PSG, même de Nantes, il y a des clubs comme ça. Metz, il y a encore l'espoir du Barça, face au Barça, il y a des clubs comme ça qui restent, le Racing Club de Lens, bien entendu, j'avais un tout petit peu, mais Racing Club de Lens qui avait une alliance avec l'Atlético de Madrid, donc voilà, mais Rennes, je me souviens pas d'un match européen de Rennes en Espagne. Voilà, en tout cas contre les équipes andalouses, je m'en souviens pas. Donc voilà, les gens vont pas critiquer. Alors on avait un peu parlé de Rennes quand Philippe Montagnier avait quitté la Real Sociedad et avait entraîné Rennes. Donc on le suivait un petit peu parce que c'est un entraîneur très apprécié ici. Mais voilà, il y a pas d'avis énorme sur Rennes en Espagne parce qu'on le connaît, on connaît pas bien ce club quoi. Ah. Voilà, je sais pas vous mentir.
Quelle belle ville en tout cas.
Séville ou Rennes?
Oui, quand même.
Ah mais c'est.
Tu veux dire que c'est mieux que Rennes comme ville?
Tu sais quoi, je suis jamais allé à Rennes.
Oui, bah c'est mieux, t'inquiète.
Ah ouais, c'est mieux. Ah oui. J'ai rien raté.
C'est pas la même région, c'est pas la même climat. Séville est l'une des plus belles villes du monde, c'est une ambiance extraordinaire.
C'est quoi la plus belle ville en Italie, Simone? À ton sens?
C'est compliqué. Compliqué quand même.
Moi, il n'y a pas de débat, Firenze. Mais si Rome, c'est magnifique. Mais
Florence,
Florence. Florence.
Moi, en Espagne, j'hésite entre Séville et Saint-Jacques.
Tu veux qu'on passe des sons ou tu parles
entre Séville et quoi?
Saint-Jacques de Compostelle.
Oh non, à Séville, j'ai fait Saint-Jacques pour le coup aussi. Non,
mais c'est extraordinaire.
Et donc, Saint-Sébastien aussi, non?
Excusez-moi parce que on peut aussi dire des trucs évidents, mais Madrid, ça pue du cul.
C'est pas une ville qui est très très belle.
Ah bah excuse-moi, mais quand même quoi.
Ah, pourtant, Dieu sait si j'aime cette ville. Madrid, on l'aime parce que t'es accueilli en un quart d'heure, parce que c'est une ville que tu découvres en un week-end ou en toute une vie. Mais on peut pas dire que architecturalement, voilà, c'est mieux comme ça. C'est la plus belle ville d'Espagne. Non, c'est une belle ville.
Du coup, ils sont en train de couper ta ligne, les mecs, à Madrid là.
Madrid, il y a d'autres choses. Il y a eu quand même des choses affreuses qui ont été faites au niveau architectural quand tu sors du centre, quoi. Donc non, mais Séville, tout est beau.
Pour toi, Madrid, c'est la plus belle ville d'Espagne, Daniel.
Non, j'ai pas dit la plus belle. Mais comme il la citait pas, je voulais savoir.
Non. Il y a des.
J'aime beaucoup Valence.
Oh non, c'est moche.
C'est hyper agréable comme ville.
C'est agréable, mais c'est pas beau d'un point de vue architectural.
C'est pas dégueu non plus, là. Ils ont le fleuve desséché, là, qu'ils ont réaménagé.
Le plus beau, c'est le stade.
C'est magnifique, c'est un vrai stade de foot.
C'est comme Simonet, ici de Florence. Ok, Florence, mais excuse-moi, mais Rome en Italie, je vois qu'est-ce que tu peux faire de mieux, même dans le monde, c'est un peu compliqué, c'est top 3, donc bon. Rome, ça reste Rome.
Il a peut-être des choses.
Je préférais Florence à Rome, Simonet, voyons.
Mais il a peut-être des choses qui lui font préférer Florence.
Alors dans ces cas-là, c'est pas un regard objectif. S'il a son resto préféré ou une vieille gonzesse qui traîne là-bas. Florence, c'est sublime, mais Rome.
Daniel, je pense.
Pour qui peut y aller, s'y balader et y rester. Je sais pas.
Les centres-villes de Rome, c'est.
Mais même à côté, voyons, si tu vas dans les collines et tout.
J'ai à Rome, c'est un désastre.
Tu parles de quoi?
Le transport, mais toi tu me parles de cas pratique, tu dois bouger dans une ville, tu fais comme Daniel, tu me parles de cas pratique,
je parle de ce que tu dois voir, voyons. Arrête avec tes petits soucis, le week-end métro il passait pas dans la ville.
Oui, mais un week-end il est agréable quand il est quand il se passe bien aussi, il faut que ce soit fluide.
Difficilement se passer le week-end.
Daniel, je pense qu'il faut qu'on appelle Jean-François. Daniel, je pense qu'il faut qu'on appelle Jean-François Rial.
Conférence, oui voilà.
Sienne, tu aimes bien s'il vous plaît?
Bah oui, c'est joli, c'est charmant. Mais...
Et toi, Pierre,
c'est plus belle.
En Italie, c'est quoi la ville que t'as le plus
Florence, tu la tournes en vélo. C'est magnifique. Les centres-villes de Florence, en vélo.
Je sais pas. Rome, j'avais beaucoup aimé, mais je sais pas. Séville, j'avais beaucoup aimé aussi. Saint-Sébastien aussi.
Ouais, mais je trouve que ouais, c'est bien.
Alors, c'est petit,
bien,
hein, c'est pas le même.
C'est pas. Mais Séville,
c'est magnifique, je trouve.
Puis il y a sept siècles de domination arabe qui ont laissé des traces partout. Enfin, c'est. Il y a tellement. T'as l'impression. T'as pas l'impression d'être au 21e siècle quand t'es à Séville, quoi. Voilà, c'est ça qui est très extraordinaire, quoi. C'est que t'es dans une autre époque. Les fleurs d'oranger. Enfin, non, mais c'est un truc de malade, quoi.
Après, on parle, on s'en aperçoit peut-être plus, mais Paris, on y est, hein, les mecs. Hein.
Ah, bah non,
mais on parlait pas de, Paris.
Non, on parlait des villes du monde. À ce moment-là, Simonet parle pas de Rome et Fred parle pas de Madrid.
Les gars, Julien Laurence et David Lortolari, oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Fredo?
Non, non, parce que comme Daniel on a souvent été opposés sur nos vacances, nos villes préférées. Je proposais qu'on appelle Jean-François Rial, notre ami agent de voyage, pour nous départager. Au cas où.
Bon, là c'est très subjectif, tu as compris. Là c'est voilà les choix de chacun, quoi.
Bon, après on a fait 2 minutes sur les villes et j'ai oublié de dire mon cadeau et mon bidon de la semaine.
Mais personne ne l'a fait, je passe pas remarquer.
Ouais, on est sur autre chose là.
Et tout c'est à l'heure, Arthur Robert me disait là et le cador et le bidon. Bah non, on va parler, autant parler des belles villes, tu vois.
Bon allez, voilà. Bah oui, pourquoi pas.
Julien Laurence et David Lortolari nous attendent. Ils seront avec nous dans quelques instants. D'accord. On va poursuivre, analyser le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions de Ligue des Champions, le 16e de finale de Ligue Europa également. Je m'en perds. À tout de suite. Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Simone Rovera, Fred Hermel et ils nous rejoignent. Julien Laurence, salut Julien.
Good evening, salut à tous.
Ça va Julien?
Ciao. Super, merci. Et toi, depuis tout à l'heure?
Bah oui, écoute, c'est vrai que toi, t'as passé une longue journée sur nos ondes, comme on dit. Il est là, David Lortolari.
Allô, Freunde, salut messieurs, salut à tous.
Alors, David, Julien, sachez, là, on était en train de demander, voilà, c'est quoi votre ville préférée dans votre pays, etc. Il y a beaucoup de demandes sur le hashtag RMSLEV et sur l'application Direct Studio. Beaucoup de questions pour toi, mon cher David. Quelle est la plus belle ville d'Allemagne?
La plus belle ville, alors il y en a beaucoup et il y en a aussi beaucoup qui ont été évidemment avec les événements historiques du XXe siècle lourdement bombardés, y compris des très belles villes. Pour moi, la plus belle ville d'Allemagne, et ce sera un jugement objectif
bien
ce
sûr.
Soir, c'est Dresde. C'est Dresde qui est dans l'Allemagne, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, qui a notamment des églises absolument magnifiques, époustouflantes, mais qui a évidemment beaucoup souffert des bombardements en 45. Mais voilà, c'est Dresde. Alors ça vous surprendra peut-être.
Non.
Notamment même au niveau du foot, parce que le Dynamo Dresde
n'est
pas encore revenu.
Berlin, Munich, vraiment quoi, vraiment.
Ah, sur le plan artistique, sur le plan architectural, oui, c'est fameux. Mais après, c'est pas la plus grande ville du pays non plus. Et je suis d'accord, Daniel, tu as une ville comme Berlin qui a beaucoup de charme aussi, quoi, clairement.
Très bien. Messieurs, on va revenir sur les tirages au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, 16e de finale d'Europa League. On rappelle le tirage des clubs anglais. On va commencer par toi, Julien. Tottenham Dortmund, Schalke 04, Manchester City, Liverpool Bayern. Voilà, du coup, ça va être un combo. On va vous écouter tous les deux avec David, Julien. Jingle. Julien Laurence, tout d'abord.
My view is that people are too harsh with Pogba. They want him to pass the ball like Busquets, to score like Lampard, to defend like Conte, to create like De Bruyne, and to be Pogba on top of that. It can't be all of that.
De Bruyne. Avant de parler justement du tirage au sort qui concerne les clubs anglais et allemands, t'avais un avis tranché qui concerne le tirage au sort qui concerne le Paris Saint-Germain. Manchester United, Paris Saint-Germain, vous rappelle, c'est le huitième de finale qui concerne donc le PSG. Et toi, tu dis que United peut le faire, mais à une condition.
Ouais, à une condition. Mais c'est pas une grosse surprise, hein, pour les auditeurs et pour tout le monde. C'est qu'il y a un changement d'entraîneur, forcément. Si Mourinho reste en place, pour moi, c'est impossible qu'en l'espace de 2 mois, il change dramatiquement cette équipe, qu'elle se met soudainement à bien jouer, à jouer en équipe, à bien défendre, à se créer des occasions, à marquer des buts et à être capable de causer des problèmes à cette équipe du PSG qui, elle, sera encore plus forte dans 2 mois qu'elle ne l'est aujourd'hui. S'il y a pas de changement d'entraîneur, pour moi, c'est terminé pour United. Cependant, s'il y a un changement d'entraîneur, même si c'est pour promouvoir Nicky Butt de l'équipe réserve qui fait du très bon travail avec l'équipe, même si c'est pour mettre Michael Carrick qui est l'adjoint de Mourinho, là, en revanche, il peut se créer quelque chose.
Bah oui,
il peut se créer un électrochoc.
Il y a assez de bons joueurs pour que l'équipe tourneront, quoi.
Voilà, en tout cas, elle tournera mieux qu'en ce moment. Et dans ce cas-là, je dis quand même attention à ne pas prendre ce match trop à la légère pour le PSG, même si c'est dans 2 mois, même s'il y a un nouvel entraîneur, parce que je pense que t'as quand même des joueurs qui peuvent te faire mal à certains moments. Ils ont une expérience que toi tu n'as pas. Ils ont un savoir-faire peut-être que toi tu n'as pas au niveau européen. Et ce sera pas forcément une balade de santé comme ça, comme on a l'impression que ça pourrait l'être maintenant si Mourinho restait dans les conditions dans lesquelles on l'a vu encore hier à Liverpool. United est en train de jouer en ce moment.
Quoi qu'il arrive, je ne vois pas le PSG prendre ce match à la légère. Moi. Que certains consultants ou
non, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que
supporters, mais le PSG, eux, je les vois pas le faire.
Attends, mais Pierrot, ils sont nuls. Ils sont trop nuls, Manchester United. Sincèrement, je te promets.
Ah, je les vois jouer, Julien, justement,
plutôt que de se plonger dans ce match qui aura lieu dans deux mois et dont on a à peu près, tout dit, revenons à ton avis, et à ce que tu dis. Est-ce que, au final, c'est réellement envisageable? On a tous vu le match hier. Je sais pas si j'allais dire surtout le début, tellement Manchester prenait l'eau au début, au moment où
on s'en revient. Terrible.
Ouais, mais enfin, voilà. Bref, on a vu ce qui s'est passé. À chaque fois qu'on parle de Manchester sur ce genre de match-là, à chaque fois, moi, je suis sur le cul et je disais tout à l'heure, je veux que cette équipe soit punie de jouer aussi mal et d'avoir un entraîneur qui fait à ce point n'importe quoi. Donc ça me fait plaisir. Mais je me dis, Alex Ferguson était encore là. Il regarde ce qui se passe. C'est possible que, en plus, quand on sait, ceux qui ont lu les interviews, les bouquins sur Alex Ferguson, à quel point pour lui, ce qui comptait principalement, même avant un match de Coupe d'Europe, c'était le match contre Liverpool, qui était quelque chose de... lui, il sentait au plus profond de lui pourquoi ce derby de l'Angleterre et pourquoi pour les gens de Manchester, les supporters de United, c'était important de battre Liverpool. Il prend une raclée, non pas juste au score, mais dans le jeu, dans l'attitude, dans le côté guerrier que lui mettait en avant dans ce genre de match-là. Comment il peut supporter, comment les gens de Manchester peuvent supporter ce qui se passe en ce moment? Moi, ça reste un grand mystère. Je sais l'explication des Glazers qui s'en branlent, qui ne viennent pas, qui sont contents parce que le business tourne. Mais à un moment, moi j'ai vu des manifs dans les rues à Manchester United, à l'époque, tu sais, où on se baladait avec les écharpes jaunes, machin, les vieilles couleurs historiques, ouais, contre les Glazers, machin, on était pas contents. Et là, il se passe rien.
Bah, d'ailleurs, ils ont créé un club.
Ouais, je sais. Et là, il se passe rien.
Alors, il se passe, cet après-midi, ils nous ont briefé, le club en privé, en disant, on change rien pour l'instant, mais on changera si vraiment on sent que la quatrième place, donc le top 4 qui sera que la quatrième place, de toute façon, ils
Comment tu vas aller choper le top 4 là maintenant?
Mais ils sont déjà à 11 points déjà. Ils jouent comme des cochons. À quel moment tu vas dire, bah là c'est 13 points, bah attends, on attend encore un peu, on a 15 points.
Comment tu vas aller combler les 13 points, même avec un changement d'entraîneur, ça va pas être simple.
C'est pour ça. Donc moi je pense que ils sont en train de s'activer en coulisses pour trouver la solution la plus adéquate pour le remplacer. Ils savent très bien que lui il partira pas, il s'assiera jamais sur 30 millions d'euros, c'est impossible. Bah, de toute façon qui le ferait? Personne le fera. Et je pense qu'ils cherchent, ils gagnent du temps en disant à tout le monde en privé non mais écrivez, dites partout que pour l'instant on change rien parce que la situation elle est pas complètement catastrophique.
Ouais, ce que tu fais toujours dans ces cas-là de manière finalement.
Voilà, mais je suis sûr que en interne et en coulisses ils sont en train de chercher.
Bah, Pochettino, on va l'essayer. Avec Ed Woodward, hein, qui est
pendant la trêve, Julien.
Le boss.
Alors quelle trêve? C'est ça le problème, Pierrot, c'est que t'as laissé passer le mois de novembre,
la semaine en janvier. Alors, là où il y a la cup là.
Pardon, encore. Pendant la période de mercato de janvier là où il va, quand tu vas revenir en janvier où tu réattaques derrière.
Ouais, peut-être. Moi, je pense qu'ils ont laissé la fenêtre idéale, c'était cette trêve internationale au mois de novembre. Ils ont laissé passer ça en pensant, ouais, il y a un petit peu de mieux. Effectivement, ils sauvent sa tête contre Newcastle en revenant de 0-2 à 3-2. Il y a quelques matchs où il y a un sursaut, où il y a un petit truc, ils gagnent, ils s'en sortent le match à la Juve, mais jamais de la vie, ils doivent gagner, ils gagnent 2-1 et ouais. ça lui rachète une semaine ou deux, non, tu vois.
Je sais pas comment puis, sur ce match-là,
c'est incroyable. Surtout,
c'est la dictature du résultat, mais c'est tellement absurde contre la Juve, ils sont à la rue complète.
Mais Simonet, on a parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, d'un retour de Mourinho à l'Inter. Il y a même un dirigeant de l'Inter qui en a parlé dans la presse.
Ah bah c'est le seul endroit où il est où il peut être accepté.
Ouais, mais où j'ai dit ce week-end quand on en parlait que c'est même pas ce serait pas la bonne idée pour l'Inter parce qu'il faut tourner la page. Spalletti a toujours un peu il y a l'ombre sur n'importe quel entraîneur qui arrive à l'Inter d'après Mourinho.
On en a parlé il y a deux jours. Hein.
Tout le monde, tous les entraîneurs, on demande d'être Mourinho à niveau des résultats. Ça c'est impossible avec l'équipe d'aujourd'hui et ça rend plus compliqué les travaux des entraîneurs d'aujourd'hui. Mais après, qu'il y a un code encore très très important en Italie, ça c'est. C'est évident. Les problèmes, je pense surtout pour Manchester, vu la situation et vu l'équipe actuelle, parce que même ces week-ends, je pense Roy Keane a dit, il y a certains joueurs qui n'ont pas les niveaux pour être des joueurs de Manchester, si je ne me trompe pas, j'ai lu sur certaines... Ouais, donc, un grand entraîneur, qui c'est l'objectif de Manchester, qui prend une équipe qui est considérée pas au niveau en janvier, en fait, avec une huitième de finale très compliquée quand même derrière... Je sais pas qui veut prendre cette équipe. Si on rêve du Zidane, Zidane va pas prendre cette équipe en janvier. Des grands entraîneurs ne vont pas prendre pas cette équipe, ces clubs, oui, mais pas cette équipe en janvier. On verra en juin, mais il faudra faire un gros, gros ménage derrière.
Tiens, juste parce qu'on parle de ce huitième de finale entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, il y a Guillaume qui est supporter de United et qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait réagir à ce tirage lui aussi. Salut Guillaume.
Salut les gars.
Salut Guillaume.
Salut, salut Guillaume.
Alors qu'est-ce que t'en penses de ce tirage, toi, Guillaume?
Ah, mais je suis soulagé, mais à un point, vous imaginez même pas. Ça y est, on a une date. On a une date, J-60. S'il part pas d'ici là, dans 60 jours, il dégage. Parce que on va se prendre Paris joue contre Orléans demain. Mais je pense que Orléans a une meilleure défense que Manchester. Parce que vous prenez les gars derrière, c'est une catastrophe. On va se prendre fessé à l'aller, fessé au retour. Mourinho, on fait le chèque, on signe, il dégage. C'est sûr, dans 60 jours maintenant, il y est barré. Et on va enfin, j'espère, retrouver un club digne du nom de Manchester United. Parce que faut pas oublier qui est Manchester United.
Bon, mais personne n'oublie, tu sais, on peut pas oublier ça. Hein.
Ouais, depuis 5-6 ans quand même, tu commences à oublier.
Ouais, parce que le foot n'a pas de mémoire, mais les gens qui connaissent le foot ont tout la mémoire qu'il faut.
Ouais, bien sûr, mais depuis 5-6 ans, on n'est pas à la place où on devrait être. Et on se fait humilier par tout le monde. Vous le disiez tout à l'heure, normalement Liverpool c'est un match où on se défonce, on sort avec des crampes. Les mecs hier on avait rien à cirer quoi. On se fait humilier par Liverpool, on se fait humilier par City. Il y a plus rien qui compte, qu'on a plus d'orgueil, on a plus de fierté. Donc il y a un moment faut qu'il prenne son chèque, il se casse. Et merci Paris quoi. Ils vont nous sortir de cette galère.
Ça, tu sais d'ailleurs que, chose originale, Paris a quasiment affronté toutes les plus grandes équipes d'Europe, Manchester United.
C'est une première.
Voilà. Ouais. C'est un des rares clubs. D'ailleurs, en match aller-retour, je crois que le PSG n'avait jamais fait Manchester United. Ils n'ont jamais fait l'Inter. Ouais. En match aller-retour. Et il en manque qu'un, grosse équipe en Europe qu'ils n'ont pas fait en aller-retour. Ça doit être, ouais, bon, je sais pas si on peut considérer, mais Tottenham en aller-retour.
Ouais,
pas, on considère pas que c'est
en Ligue des Champions,
un
ils ont une immense histoire.
Ouais. Non, mais en plus, c'est
d'ailleurs, tiens, une petite stat, puisque tu parles de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain va disputer son 100e match de Ligue des Champions lors du 8e de finale retour face à Manchester United, oui, justement. Mm-hmm. Ce sera la 100e en Champions League. Voilà. Merci Guillaume d'avoir
été
avec nous.
Messieurs, si je peux intervenir par rapport aux supporters de Manchester United, c'est intéressant parce qu'il y a une frange des supporters du Bayern qui pensent la même chose avec Kovac. C'est-à-dire vivement la branlée qu'on va prendre, disent-ils, contre Liverpool, pour pouvoir enfin dégager cet entraîneur. Donc il y a un parallèle là, même si évidemment Kovac n'a rien à voir avec Mourinho sur son passé d'entraîneur, mais il y a une partie des supporters du Bayern qui pensent aussi qu'il va y avoir besoin de cet électrochoc-là pour que l'entraîneur s'en aille.
Alors puisque Kovac à Manchester et Mourinho Bayern.
Bingo. Alors Mourinho avec le board du Bayern, ça va être quelque
chose.
Je pense que
Mourinho, une fois qu'il s'est viré de Manchester, je pense que c'est fini.
Non,
je pense que c'est le Portugal.
Il va prendre
l'équipe portugaise.
C'est-à-dire,
il va retrouver forcément.
Il fera quoi, les amis. Tu dis, Julien, toi?
Il ira prendre la sélection nationale portugaise.
Alors c'est son grand fantasme, mais il a dit je le ferai en toute fin de carrière. Ouais. Je pense que lui dans sa tête il se voit pas en fin de carrière.
Eh ben moi je vous dis c'est fini.
Moi je pense pas.
Je suis prêt à parier. Mettez les dés sur la table. Le seul club qui se tentera encore quelque chose, éventuellement, c'est l'Inter.
Moi, je te dis
sinon,
que...
c'est cramé, fini.
Moi, je sais pas ce qui va se passer au PSG dans les prochains temps.
Qu'est-ce qu'il demande?
Mais c'est une blague ou quoi?
Ah, tu verras.
Terminé. Jamais.
Je sais pas qui aura comme PSG. Même... Si Antero reste au PSG, les gars, ce qui d'ailleurs est du tout.
Alors là,
je sais même pas si Antero partira avant.
À une époque, oui, j'y crois plus.
De United.
Exactement.
C'est pour ça que je vous dis ça.
Moi, je vous dis, billet sur la table, je pense que c'est fini, Mourinho.
Ça dépend qu'est-ce qu'il veut contre
United.
Quel club? Parce qu'en Italie,
si c'est pour aller entraîner Crotone ou Rio Ave, ok, Roma, d'accord.
Non. Lui, c'est Setúbal, son club. C'est son club de cœur.
Je parle d'un club comme la Roma, qui a un projet derrière américain, un coach comme Mourinho. Je te jure qu'il ferait rêver. Parce que.
Il y a toujours quelque chose d'un peu intéressant.
Voilà. Bah oui. Et même Milan, fais attention, parce que.
Ce sont des clubs qui ne prennent plus de bonnes décisions depuis très, très, très longtemps.
Les gars, dans quelques instants, l'avis tranché de David Lortolari. On va revenir sur les autres affiches, celles dont on n'a pas encore parlé en huitième de finale de Ligue des Champions, notamment le match entre Liverpool et le Bayern, et aussi Tottenham Dortmund, Schalke 04, Manchester City. À tout de suite. En compagnie
de Daniel Riolo, de Pierre Ducros, Simone Rovera, Fred Hermel, Julien Laurence et David Lortolari. On va parler du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions et des clubs allemands. Jingle, Lortolari.
Timo Werner. David,
bah, je vous propose de regarder la Coupe du Monde. Chapeau 1.
Hein. Rien pour cette remarque.
Ouais. Et, non mais c'est bien de ressortir
ce jingle. Coutillon.
Oui mais attends parce que c'est bien de ressortir ce jingle ce soir. Bravo au gars en régie parce que il a encore marqué 2 buts Werner et ça fait 10.
Ouais, c'est ça.
2 fois 5. Il a marqué 5, dans 5 matchs et c'est à chaque fois des doublés. Donc voilà, c'est tout, ça veut pas dire que c'est le meilleur attaquant d'Europe mais c'est sympa quand même.
Alors mon David, toi tu as un avis tranché qui est un peu global et qui concerne le tirage au sort non seulement des 8e de finale de Ligue Europa pour les clubs allemands mais aussi des 16e de finale d'Europa League.
C'est qui passe toutes ces équipes.
Alors, il y a oui. Un peu de ça dans ce que dit Lorto. Il y a Liverpool-Bayern, il y a Tottenham-Dortmund, il y a Schalke-Nulfir-City. En Europa League, il y a Shakhtar face à l'Eintracht-Francfort.
Schalke, je suis pas obligé d'y croire, hein, qui passe contre City.
Ouais, je pense
hein,
pas.
Bon.
Et on a Krasnodar face au Bayern-Leverkusen. Tu dis quoi, toi, Lorto?
Je dis même pas peur. 5 sur 5. Non, alors, bah, simplement, bon. Je suis content que Daniel...
5 sur 5 de...
Non, mais c'est une boutade, évidemment. Je suis content que Daniel ait développé un avis tranché qui consiste à dire que parler le 15 décembre d'un match qui se jouera le 15 février, c'est un peu compliqué, et particulièrement pour Liverpool-Bayern. On va y revenir dans une seconde. J'écarte rapidement les 2 matchs d'Europa League. Oui, même si c'est un déplacement lointain, le Bayern-Leverkusen doit aller s'imposer à Krasnodar.
Bah oui,
doit
quand même, oui.
Sortir
quand
Krasnodar. Quand même, le Bayern, là, cette année, non plus.
L'Eintracht Francfort, évidemment.
Ils sont relous, Krasnodar.
Krasnodar, c'est un groupe de Séville.
Ouais.
Ils ont...
Deuxième
ah oui, non mais c'est pas forcément fait à l'avance, on sait pas ce que j'ai dit, mais Francfort est tombé sur le pire tirage possible, puisque le Shakhtar, si j'ai bien compris, était le seul reversé de Ligue des Champions qui n'était pas dans le chapeau 1. Or Francfort l'était, et du coup il tombe contre le Shakhtar, mais Francfort doit passer, et notamment, on y reviendra dans les prochaines semaines j'espère, parce que il a dans sa ligne d'attaque un certain Sébastien Haller, le français, qui non seulement marque des buts, mais en plus, et il l'a prouvé ce week-end, est capable de faire des passes décisives délicieuses. Donc les deux en Europa League doivent passer des 16e vers les 8e. Ça c'est fait, c'est dit. Maintenant, évidemment, Schalke City, c'est la plus grosse cote. Daniel, tu as raison de rigoler. Ça va être compliqué pour Schalke de sortir City, surtout en ayant le match aller à domicile, surtout en étant 13e du classement en Bundesliga.
C'est bouclé dès le match aller.
Une saison pourrie quand même, hein, Schalke.
Dès le match aller, c'est bouclé.
Alors, le truc, c'est que Tedesco, c'est l'entraîneur le plus doué parmi ceux qui ont eu leur diplôme en Allemagne ces dernières années. Il était même plus meilleur au niveau de la note. Et on en rigolait cet après-midi en préparant l'émission avec Nico Villas. Il était meilleur au niveau de la note du diplôme que Nagelsmann. Donc, Tedesco doit être capable de, au moins, proposer quelque chose. Mais bien sûr, pour Schalke, ce serait une énorme cote s'il sortait City. Ça, d'accord. Tottenham-Dortmund. Parce qu'en fait, mon avis tranché, je l'ai construit cet après-midi parce que la presse allemande, dès le tirage au sort, a commencé à faire du catastrophisme. En disant, alors on dit en Allemagne Hammerlos, ça veut dire tirage de folie, en disant que pour Dortmund et le Bayern, ça allait être compliqué. Dortmund, moi je veux bien que ce soit compliqué. Je veux bien que Tottenham et Julien Laurence aura sans doute des arguments à ce sujet, soit une belle équipe anglaise en ce moment, sauf que Dortmund, avec l'entraîneur qu'ils ont, qui réussit tout ce qu'il tente, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait cette saison, avec ces jeunes qui ont une confiance d'enfer, ah avec
David, que tu sois confiant, je veux bien, mais envisager que ça puisse être serré, que Tottenham a son mot à dire, je te trouve un peu quand même, t'es bien confiant.
Oui, je suis d'accord,
là,
Daniel,
même.
Mais... Non,
en
mais
plus,
ce que
Tottenham,
je veux dire,
s'il y a un truc qu'ils aiment bien, c'est justement le fait de jouer un adversaire qui ferme pas, ça peut être un match ouvert, assez spectaculaire.
Ils se sont d'ailleurs rencontrés la saison dernière.
Tottenham, que Dortmund soit archi favori de cette confrontation, c'est un peu gonflé quand même.
Non, mais il n'a pas dit archi favori.
Pas dit archi favori.
Et la façon dont
il a fait tranché.
Alors, ok, encore une fois, c'est pas comme ils
sont dans le mois. Mais un début de saison en Bundesliga comparé à un début de saison en Première Ligue. Arrêtez avec vos trucs sur les championnats. Quand vous êtes dans un championnat.
Championnat, il y a aussi la Coupe d'Europe.
Mais
ils sont bien Dortmund.
On compare pas les championnats.
Mais non, mais les Dortmund,
tu fais tout le temps de comparer les championnats.
Parce que t'es bon dans ce championnat, ça veut dire que forcément tu seras bon contre une équipe d'un autre championnat. Tu peux pas savoir ce genre de truc là.
Ah non, mais
non,
tu compares
deux équipes, peu importe.
Alors, mais encore une fois, on parle d'un truc, on sait pas ce qui se passera dans 2 mois. Mais attends,
non, simplement, il y a une idée reçue que je voudrais balayer, qui consiste à penser que Dortmund est une équipe jeune. Eh bien non, Dortmund n'est pas une équipe jeune. Les deux latéraux, Piszczek et Schmelzer, sont des vieux de la vieille. Götze rend des services. Les deux milieux défensifs, Witzel et Delaney. Alors évidemment Witzel est plus connu sur la scène européenne, mais ces deux-là, je peux vous dire que c'est pas ils sont pas tombés de la dernière pluie. Et autour, effectivement, il y a des jeunes virevoltants. Mais cette équipe de Dortmund a déjà, à mon sens, suffisamment d'expérience pour être sereine avec en plus le match retour au Westfalenstadion pour sortir Tottenham. Il reste le cas le plus compliqué. Eh oui. Alors le Bayern, c'est là où je me rapproche de la vie tranchée de Daniel. Le Bayern a fait un début de saison, allez, on va dire plus qu'ordinaire, voire on peut dire même très discutable. Sauf que depuis, Kovac a commencé à être un peu plus convaincant dans son vestiaire. Il a pris les décisions tactiques qui s'imposaient, c'est-à-dire qu'il a soulagé sa défense en mettant deux milieux défensifs. Par exemple, on peut imaginer Kimmich et Thiago. Il a trouvé donc une assise à ce niveau-là. Et devant, ça va mieux parce qu'il a eu le courage, et aussi grâce aux blessures, de mettre Gnabry et Kingsley Coman, qui est enfin revenu, sur les ailes. Et du coup, le Bayern n'est plus du tout le même.
Si t'arrives à foutre les deux vieux sur le banc, t'as plus de chance. Mais si les vieux gardent le pouvoir devant, là, Liverpool passe, hein, tranquille.
Ça va être compliqué de toute façon, on le sait. Pour le Bayern, ils le savent, ils l'ont dit. Mais moi, je pense que l'évolution actuelle récente du Bayern, et encore ce week-end, contre un adversaire certes d'aucune valeur, qui est dernier du championnat aujourd'hui, mais où le Bayern a montré qu'il avait retrouvé de la confiance, qu'il avait retrouvé de l'impact, qu'il avait retrouvé de la puissance, il est sur la bonne voie ce Bayern-là. Et pour moi, on peut être confiant. Salih Medzic, je parlais de 50-50 ce midi, le directeur sportif, je pense qu'il y a moyen de sortir Liverpool avec le match retour à la maison.
En tout cas, super belle affiche. Hein.
Ah oui, c'est l'affiche.
Liverpool-Bayern, ça pue la Coupe d'Europe quand même.
D'ailleurs, ils
ça pue le match qui va être agréable à regarder.
Ils se sont jamais rencontrés dans cette compétition, mais ils se sont en revanche rencontrés en août l'année dernière, juste avant que Carlo Ancelotti commence à
chercher
le
Liverpool Bayern en Coupe d'Europe, moi.
Jamais.
Et pas que en C1, même en C2 ou C3, c'est
ça. En C1, non. Alors après, sur les autres compétitions, peut-être, Daniel, effectivement.
Dans la Coupe d'Europe, avant la Ligue des Champions, ils se sont rencontrés déjà, ouais.
Dans les années 70, peut-être.
En 80, il me semble, il y a deux matchs, 0-0 et un partout, je crois. Liverpool. Avant la finale.
Avant.
Les gars, ils sont affrontés en 81, il y a eu 0-0 et un partout. Voilà, demi-finale, 80.
Demi-finale, avant la finale dont on parle.
Et ils sont affrontés en Coupe des Coupes également, en 71, 10 ans avant. 0-0, 3-1 pour le Bayern le retour, et puis la Super Coupe d'Europe également, en 2001.
Mais pas tant que ça, donc. Avant cette demi-finale de 81 qui reste le match en C1, il n'y en a pas.
Il y a eu 7 confrontations. Grosses équipes comme ça.
C'est deux équipes qui ont
souvent fait les parcours.
Alors il y a 7 confrontations si on compte la Coupe des Villes de Foix. Vous vous souvenez de ça? 71.
Ouf, c'était pas né.
Ouf, Didier. Julien, on en dit quoi de ce tirage, de ce Liverpool-Bayern notamment? Alors on va parler aussi de Dortmund-Tottenham, mais comment ça a été perçu ça en Angleterre?
Il est plutôt bien parce que le Bayern effectivement a pas impressionné vraiment cette saison pour l'instant, même si comme disait Lorto, il y a du mieux ces dernières semaines, mais Liverpool est favori. Je pense que Klopp voulait le Bayern. Je pense que Klopp a une revanche à prendre contre le Bayern depuis la finale de 2013 avec Dortmund. Il connaît Lewandowski par cœur, et Lewandowski reste, quoi qu'il arrive, le principal danger pour cette défense de Liverpool, qui sera privée d'ailleurs de Virgil van Dijk pour le match aller, puisqu'il a pris ce deuxième carton, lors du match contre Naples. Donc sans van Dijk, c'est pas la même défense de Liverpool. Mais Klopp a fait, c'est lui qui a fait Lewandowski. Il connaît Lewandowski par cœur, et peu importe qui jouera en défense dans ce match aller pour Liverpool, que ce soit Matip et Gomez, ou Lovren ou Matip, Klopp donnera des conseils incroyables sur Lewandowski, sur comment Lewandowski aime jouer, ce qu'il aime pas, et s'il aime pas, comment on défend sur lui, etc. Mais je pense que Klopp va prendre ce match d'une manière très très personnelle, et je pense que ça peut être que bénéfique pour Liverpool.
Ça, forcément, on en parle aussi en Allemagne, non, des retrouvailles entre Klopp et le Bayern, David.
Oui, évidemment, c'est l'argument numéro un pour faire des gros titres demain matin dans les journaux, ça c'est sûr, on l'a vu déjà sur les sites internet des grands médias aujourd'hui. Lewandowski, c'est 22 buts en 22 matchs officiels cette saison. Alors encore une fois, c'est trompe-l'œil parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'équipes aussi de seconde zone. Mais il est inimaginable que Kovac ne mette pas Lewandowski en pointe pour ce match mi-février et début mars, parce que évidemment Sandro Wagner, s'il ne part pas cet hiver, ne peut pas faire le poids, et ce sera Lewandowski l'attaquant. Donc là-dessus, je suis Julien.
Tiens, et Julien, alors parlons du Tottenham Dortmund aussi. Il y a un truc qui est quand même qui est le serpent de mer là à Tottenham là depuis quelques mois maintenant, voire quelques années, mais c'est Pochettino. Alors il a été annoncé au Real, il a annoncé même à Manchester United où Mourinho pourrait partir également. Comment il l'appréhende ce match, lui, Pochettino? Il en a dit quoi du tirage?
Alors, je pense que c'est une des équipes qui redoutait le plus cette équipe de Dortmund, même si, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, la façon de jouer de Favre et de Dortmund peut très bien convenir à cette équipe de Tottenham qui va adorer les espaces. Ils se sont rencontrés en phase de poule la saison dernière et Tottenham avait gagné à domicile et à l'extérieur. Alors c'était pas la même équipe de Dortmund, bien sûr. Il y avait pas Lucien Favre, il y avait pas Kohl Kasser, il y avait pas Jadon Sancho, il était pas dans la forme qu'il est, etc. Il était même pas encore arrivé au club. Mais donc c'est une équipe de Dortmund complètement différente. Tottenham, lui, et c'est assez similaire de ce qu'on avait l'habitude l'année dernière. Pour Pochettino, ce qui est intéressant, c'est que lui, tu sens qu'il kiffe. Il kiffe grave être dans la presse anglaise, qu'on parle de lui à Manchester, qu'on parle de lui au Real. Alors il fait des petites blagues, il dit ouais, ben moi si j'étais mon président, ouais, je serais content que mon entraîneur il soit annoncé un peu partout, à droite, à gauche, dans tous les grands clubs européens. Je suis pas persuadé que ça fasse beaucoup rire le président de Tottenham, Daniel Levy, ou le propriétaire du club non plus, Joe Louis. Mais c'est vrai qu'il a cette cote super importante, super intéressante pour les grands clubs comme le Real, comme Manchester United. Et là où c'est intéressant pour Tottenham, c'est qu'il va vouloir encore prouver, encore aller plus loin, notamment dans la Ligue des Champions. La défaite contre la Juve, c'est le gros bémol de la saison dernière pour Tottenham, d'avoir perdu de cette manière-là à Wembley en huitième de finale retour. Et c'est sûr que cette fois, il va vouloir miser beaucoup sur la Ligue des Champions pour justement, eh ben, on l'a dit, hein, cette cote-là, la faire augmenter encore plus en Europe pour montrer qu'il est vraiment, qu'il fait partie ses grands entraîneurs.
Très bien. Tout le monde est d'accord.
C'est un match qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi bien Europa League que Ligue des Champions. Je trouve qu'il y a pas mal de doubles confrontations qui sont indécises. Alors, belles affiches.
Sur le fait qu'il y aura des espaces, je veux tempérer votre ardeur parce que le succès actuel de Dortmund, et on pourrait l'analyser pendant des heures, est basé sur la défense. Attention. Et la défense de Dortmund, on parle des attaquants, évidemment Paco Alcacer, qui en est juste, je l'ai noté, à son 11e but en 378 minutes. Faites le calcul, c'est un truc incroyable. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Le succès actuel et la qualité de Dortmund et sa confiance est basé sur sa défense. Donc il n'y aura pas forcément toujours, pendant les 180 minutes, énormément d'espace.
Et je vous rappelle,
tu peux laisser des espaces et pas prendre de but non plus. C'est pas,
oui, c'est vrai.
Parce que tu vois, vu la manière dont ils attaquent quand même, c'est que ils peuvent très bien défendre en attaquant tous ensemble, en défendant tous ensemble, mais en laissant aussi des espaces derrière.
Je vous rappelle donc les programmes de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Match aller 12 février, retour 6 mars pour Manchester United, Paris Saint-Germain et Roma FC Porto. 13 février l'aller, 5 mars le retour, Tottenham, Borussia Dortmund et Ajax, Real Madrid. Aller 19 février, retour 13 mars, Olympique Lyonnais, FC Barcelone, Liverpool, Bayern. Match aller 20 février, match retour 12 mars. Schalke 04, Man City, Atlético de Madrid, Juve. Voilà qui est sexy, messieurs. Et en Europa League, on vous rappelle également le programme des 16e
de finale. Lyon et Paris jouent pas dans les mêmes semaines.
Exactement, c'est une semaine
décalée. C'est une très bonne décision d'il y a quelques années. Et je trouve ça très bien parce que ça nous permet de voir plein de matchs.
Et puisque du coup, on disait que le PSG allait jouer le jour où allait jouer Lyon en Ligue des Champions, d'ailleurs. Ces fameux matchs reportés. Voilà. 16e de finale d'Europa League, match aller le 14 février, le retour le 21 février. Rennes Betis Séville, Rapid Vienne Inter Milan, FC Krasnodar Bayer Leverkusen, FC Zurich Napoli, Malmö Chelsea, Shakhtar Donetsk Eintracht Francfort, Celtic Valence, Lazio Séville, Fenerbahçe Zenit, Sporting Portugal Villarreal, Bate Borisov Arsenal, Galatasaray Benfica, Olympiakos Dynamo Kiev, Slavia Prague Genk, FC Bruges Salzbourg et Victoria Pilsen Dynamo Zagreb. C'est le moment de faire un cadeau, le grand jeu de Noël. Il a envoyé Noël au 732-16. Et il va gagner un cadeau. Et il s'appelle Stéphane. Salut Stéphane.
Salut Nico, salut Daniel, salut l'équipe.
Ça va Stéphane ?
Qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau ?
Une petite télé, ça serait sympa.
On fait gagner des télés.
Ça veut dire que si t'as pas de télé, t'es déçu. Moi j'avais pas vu ton mot depuis le début.
Pas du tout.
Ah, c'est pas mal, ça.
Déjà nous parler, c'est un cadeau.
Il y en a deux en plus.
Il a deux cadeaux, Stéphane.
Oh, qu'est-ce que c'est?
Alors, mon Stéphane, t'as gagné une montre connectée.
Génial.
Tu vas pouvoir aller courir, mon pote. Et t'as gagné un téléphone portable. Huawei
P20 Lite. C'est génial. Merci.
Voilà,
Stéphane. Merci.
Bonne fête à toi, Stéphane.
Et bonne fête à vous, hein. Et puis continuez comme ça, les gars, c'est génial.
On est pas prêt de s'arrêter, mon pote. Merci beaucoup, bonne fête, salut Stéphane.
Merci, voilà.
Stéphane.
Merci, bonne fête.
Si vous aussi voulez gagner, vous envoyez Noël au 732-16 et on vous fera gagner des cadeaux toute la semaine. Merci beaucoup, Fred Hermel. Merci, David Ortolari. Merci, Julien Laurence.
Merci, messieurs.
Merci, Simon
Hérodios.
Ciao. Merci, Daniel Riolo. Merci, Pierre Ducrot.
Merci, Nicolas.
Merci, Arthur Robert. C'était qui aux manettes ce soir, d'ailleurs, les mecs? C'est Daniel Torres. C'est vraiment Daniel Torres?
Ah, les drôles de dames, il faut leur souhaiter un bon Noël et tout le machin, parce qu'on les revoit plus, là. Hein.
Voilà.
Bah, Jenny, Simonet, Fred et tout.
Ah, c'est déjà, je sais pas, non,
c'est le dernier lundi avant la fin de l'année, là.
Eh oui, c'est vrai. Enfin, Julien, toi, tu vas bosser pendant tout le Noël aussi, là.
Ah oui, c'est pour ça, je pensais qu'il y avait encore une émission juste pour moi, juste pour le vrai championnat, le seul grand championnat en Europe.
Ce sera sur RMC,
ce sera tout seul.
Si, je vais bosser.
Tu peux appeler lundi, si tu veux.
J'appellerai, je t'entraîne.
Je vais bosser.
Tu vas faire quoi?
Les 26, il y a Inter-Naples.
Non, mais t'as un jour où tu vas bosser, tu vas pas chialer, non plus.
Ça va, Simonet.
On va le 26,
le
30, le premier.
Il y a un championnat
en Italie.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on a arrêté avec le.
Pitié, arrête, Nico, pas toi.
Bah, c'est ce qu'il nous a dit.
Non, mais pitié, n'utilisez pas l'expression Boxing Day pour un autre jour que le 26, ça me fait péter.
Ah, bah non, mais il y a le 26. Non, mais c'est le 26, il y a le 26.
Je crois que t'avais dit le 26.
Non,
le 26. Le Boxing Week.
Non, non.
Complètement taré.
Ah, non, surtout pas. Arrêtez. Le premier qui utilise l'expression Boxing Day pour un autre jour que le 26.
Et on se retrouve le 29 pour le Boxing Day. Allez, on y va.